إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي الكرام. Dans cette nouvelle allocution de la série de conseils et dévoilement des ambiguïtés, nous allons aborder un sujet de la plus haute importance, à savoir le sens correct de ce que veut dire suivre les savants. Étant donné que ces derniers temps, nous constatons avec grand regret que nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux et ailleurs, ont semé la confusion et créé la division en évoquant ce sujet à propos du cas de certaines personnes contemporaines et le jarh wa ta'dil les concernant. Mais avant d'apporter les éclaircissements et les rectifications nécessaires à ce sujet, il convient de rappeler qu'il ne fait aucun doute que le suivi des savants est l'un des commandements les plus importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et Allah azza wa jal dit: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers ou aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Ainsi, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a ordonné aux ignorants de questionner les gens de science. Et cela est une obligation à l'unanimité des savants. Néanmoins, il est navrant d'observer que des frères s'abandonnent à deux dérives extrêmes à propos de la mise en pratique de ce commandement. La première de ces dérives est la négligence. Certains négligent excessivement les savants. Ils ne prennent pas les paroles des gens de science. Ils ne reviennent pas aux savants. Ils ne les questionnent pas. Et s'ils les questionnent, en apparence, ils n'appliquent pas leurs réponses et ne leur accordent aucune importance, particulièrement lorsque des erreurs sont révélées à propos de ces savants. Et cela est indubitablement de la diffamation des gens de science, un dénigrement et un manque de respect de leur personne et de leur statut. Il ne fait aucun doute que les savants ne sont pas infaillibles et qu'ils commettent des erreurs. Mais la législation nous a tout de même enjoint de les respecter et de préserver leur statut et nous a interdit de les dénigrer pour leurs erreurs. Aussi, cet extrême est la déviance dangereuse des haddadis qui ces dernières années a affecté un grand nombre de nos frères s'affiliant au manhaj salafi, comme nous l'avons exposé dans la précédente intervention de cette série de conseils et dévoilement des ambiguïtés. Puis la seconde de ces dérives est l'excès, qui est aussi une dérive très dangereuse à laquelle peu de personnes réchappent, et c'est le sujet de cette prise de parole. En raison de l'amour intense et de l'admiration que certains consentent aux savants, ils s'emballent dans une exagération à leur égard. Aussi, cette exagération se manifeste sous de multiples aspects, dont le plus répandu de nos jours est le fanatisme répréhensible pour les savants. Par exemple, lorsqu'avec argumentation, respect et comportement est démontrée une erreur commise par un savant, nous voyons avec grand regret que certains continuent de prendre cette parole du savant au détriment des arguments clairs du Coran, de la Sunna authentique, du consensus et des preuves concrètes. Pire, d'autres vont même jusqu'à tenter de défendre cet avis du savant et de lui trouver des explications en tenant des propos plus erronés et contraires au manhaj salafi les uns que les autres. Tels que « Lui, c'est un savant. Et toi, tu es qui ? Il a été recommandé par tel et tel savant. Ce que tu fais est du dénigrement et un manque de respect envers le savant. Lui, c'est le grand érudit. Tu as des ambiguïtés et des agissements de Haddadi. Tu es Haddadi. » Et autres. Plus grave encore, lorsque certains vont jusqu'à attribuer implicitement ou explicitement à ce savant une certaine infaillibilité. Il lui attribue une certaine infaillibilité et qu'il est inconcevable que celui-ci fasse une erreur. Ne se rendant pas compte qu'en agissant ainsi, il le place au même rang que celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est donc du fanatisme répréhensible, qui mène à l'apostasie, iyadan billah, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah en mentionnant le consensus des musulmans à ce sujet. D'ailleurs, s'il avait été autorisé de se fanatiser pour quelqu'un, cela aurait été pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. » Comme il a été rapporté dans le hadith authentique, « Ne me couvrez pas exagérément d'éloges. » Comme ce fut le cas des chrétiens concernant le fils de Maryam, « Je ne suis qu'un serviteur, » dit alors à mon sujet, le serviteur d'Allah et son messager. Aussi, quand des gens sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ya Rasulallah, ya khayrana, wabna khayrina, wa ya sayyidana, wabna sayyidina » quand ils lui ont dit « Oh, envoyé d'Allah, oh, le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous, ô notre maître et le fils de notre maître. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Qulu bi qawlikum, aw ba'di qawlikum, wa la yastajrimannakum ash-shaytan, ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu subhanahu wa ta'ala. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu « Ô vous les gens, dites votre parole et que le diable ne vous induise pas en erreur. Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. » Donc même si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est comme ils l'ont désigné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire ces choses et d'exagérer à son égard et de se fanatiser pour lui. Dès lors, s'il ne nous est pas permis de nous fanatiser pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sans aucun doute le meilleur des hommes et celui qui ne parle pas sous l'effet des passions, alors comment pourrions-nous nous fanatiser pour des personnes dont le rang est inférieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi, le fanatisme pour les personnes ne fait pas partie du manhaj salafi. Il est le fruit d'un manque de connaissance et de compréhension de ce manhaj. Nous devons donc comprendre le manhaj salafi correctement. Car tous connaissons la parole de l'imam Malik rahimallah. Chacun d'entre nous peut voir sa parole acceptée ou rejetée, sauf celui qui occupe cette tombe, et il désigna la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كُلٌ يُؤْخَدْ بِقَوْلِهِ وَيُرَدْ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ. Cependant, qui applique véritablement cela de nos jours? Beaucoup de personnes qui s'apparentent au manhaj salafi se fourvoient dans ce sujet. Même certains qui s'affilient à la prédication. Leurs propos, leurs agissements montrent clairement qu'ils ne savent pas à quel moment la parole du savant doit être mise en pratique et à quel moment elle ne le doit pas, particulièrement lorsque celle-ci concerne les éloges et les critiques à l'égard de personnes. Ainsi, nous allons maintenant exposer à quel moment les paroles des savants doivent être appliquées. Et il faut d'abord savoir que les paroles des savants sont de trois sortes. La première de ces sortes, c'est lorsque la parole du savant est argumentée par des preuves concrètes, telles que des propos ou des agissements du concerné. Par exemple, lorsqu'un savant dit « Telle personne est un égaré car il tient les propos des Khawarij. Telle personne est un innovateur, car il a les convictions des Murji'a. Aussi, dans ce cas, la parole du savant doit être appliquée. Non pas parce que le savant a parlé, mais du fait des arguments fondés et conformes à la réalité que celui-ci a avancé pour qualifier cette personne de la sorte. Aussi, la seconde sorte est lorsque la parole du savant n'est pas argumentée et n'entre pas clairement en opposition avec des preuves concrètes. Par exemple, lorsqu'un savant dit « telle personne est un égaré » ou « un tel n'est pas salafi » sans mentionner de preuves appuyant cet avis. Aussi, même si dans ce cas le savant n'a pas avancé d'argument pour qualifier cette personne de la sorte, sa parole doit être appliquée tant que son avis n'entre pas clairement en opposition avec des preuves concrètes conformément aux principes de la science du jarh wa ta'dil. Effectivement, le savant n'émet un avis qu'avec connaissance et savoir. Bien que pour l'émettre, il ne se soit basé sur des informations transmises par des gens en qui il a confiance. Tandis que nous ne connaissons pas cette personne. Nous ignorons son état, si elle est digne de confiance, si elle suit le manhaj salafi, ou si elle adhère, défend des innovations et des égarements. De ce fait, si nous n'appliquions pas la parole du savant dans ce cas, parce que son argumentation n'est pas détaillée, ce serait toute la science du jarh wa ta'dil qui se trouverait réduite à néant. Cela serait une grave erreur. Il ne nous est pas permis d'agir de la sorte. Puis la troisième sorte est lorsque la parole du savant est en contradiction avec des preuves concrètes. Par exemple, lorsqu'un savant dit « telle personne est un haddadi, un tel est un innovateur », alors que des preuves concrètes attestent que cette personne est différente de cet avis émis par le savant à son encontre. Aussi, dans ce cas, les preuves concrètes démontrent que le savant s'est trompé. Il n'est dès lors plus permis de prendre cet avis et de l'appliquer. Sans que cela ne remette pour autant le statut du savant en question, ni le respect et le rang qui lui reviennent. Il est possible que le savant ait émis cet avis en fonction de ce qu'il connaît des propos et des agissements de cette personne. Cependant, cette personne a tenu ses propos et a eu ses agissements, puis s'en est repenti, ou n'avait pas connaissance de leur caractère erroné lorsqu'il les avait commis. Il est aussi envisageable que le savant ait émis cet avis en se basant sur des informations qui lui ont été transmises par des gens en qui il a confiance, mais qui peuvent s'être trompés, qui peuvent avoir menti, ou encore qui peuvent avoir interprété. Des multiples circonstances éventuelles que nos érudits de la science du jarh wa ta'dil ont soulevées et évoquées concernant ce sujet. Mais avec grand regret, nous constatons de nos jours que la maîtrise de ces points échappe à beaucoup de nos frères qui s'affilient au manhaj salafi. Même à certains qui sont avancés dans la prédication et l'enseignement. Même à certains qui ont mis en avant ce sujet et ont prétendu l'expliquer. Et si seulement le manque de maîtrise de ses frères s'arrêtait ici. Mais le problème est plus grave. Car certains vont sans aucune distinction jusqu'à brandir le principe d'aveu et de désaveu sur ces sujets. Al-wala wal-bara. Ya'aqidun al-wala wal-bara ala hadihi al-umur. Si nous adoptons le même avis de savant que celui qu'ils ont choisi concernant le cas de cette personne, alors tout va bien et nous restons salafis, sans manquement ni ambiguïté. En revanche, si nous adoptons un avis différent de celui qu'ils ont choisi, ils s'offusquent et n'hésitent pas à aller jusqu'à émettre des doutes sur notre appartenance au manhaj salafi, voire de nous en bannir, ou encore de nous taxer de sectaires, hizbi, de laxistes, mumayya, de haddadi, d'innovateur, mubtadi', et cela sans aucune argumentation valide et valable à l'appui. Aussi, sachez que cette méthodologie et que ces agissements ne font rien partie du manhaj salafi béni. Seules les preuves concrètes et les arguments religieux du Coran, de la sunna authentique et du consensus permettent d'imposer un avis et d'établir le principe d'aveu et de désaveu. Je m'explique. Par exemple, lorsque l'étendard du jarh wa ta'dil, Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ou l'éminent savant Sheikh Ubayd al-Jabri, hafidahumullah ta'ala, émettent une recommandation à l'égard d'un tel, ou qu'ils prononcent une critique concernant un autre. Nous ne considérons pas ces personnes et ne prenons pas ces avis les concernant, parce que ce sont ces érudits qui les ont notifiés. Simplement, nous les reconnaissons ainsi, car ces savants ont démontré avec des preuves concrètes et des arguments religieux que ces personnes se sont égarées, ont commis des erreurs graves et suivent des règles erronées et des fondements contraires au ménage salafi. Ainsi, ce sont les preuves concrètes et les arguments religieux que nous suivons, auxquels nous nous attachons fermement et que nous appliquons. C'est pourquoi il n'y a plus de place après cela pour les éloges et les recommandations d'autres savants que certains essaient d'avancer pour les défendre. Sinon, les éloges que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a fait à l'égard d'Abdurrahman ibn Muljim, le Khariji qui a assassiné Ali radiallahu anhu, lui auraient profité. Et cela est aussi valable dans le sens inverse. Ceci est alors notre manhaj et la méthodologie que nous devons tous adopter avec tout le monde. Sans quoi, cela nous mènerait à favoriser les avis des savants aux preuves concrètes, et donc au fanatisme répréhensible que nous avons détaillé plus tôt. Aussi, n'est pas correcte la règle qui s'est répandue ces derniers temps, à savoir que ne pas prendre l'avis du savant est considéré comme une diffamation et un manque de respect à son égard. Subhanallah. Paradoxalement, il ne considère pas comme un dénigrement que l'on dise « L'imam al-Mubajjal, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, s'est trompé dans tel sujet. Imam Dar al-Hijra, Malik ibn Anas, rahimahullah, s'est trompé dans tel sujet. Shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, s'est trompé dans tel sujet. Shir al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, s'est trompé dans tel sujet. L'imam du hadith de cette ère, Shir Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, s'est trompé dans tel sujet. Allahu Akbar. Étonnamment, il ne juge pas être un manque de respect que l'on dise la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, s'est trompée dans tel sujet. Ou Uthman ibn Affan radiallahu anhu, s'est trompé dans tel sujet. En revanche, il se scandalise si nous ne prenons pas l'avis du savant qu'il suive. Et ce, à juste titre, car nous suivons les preuves concrètes et les arguments religieux. Aussi, la diffamation des savants et le manque de respect à leur égard consiste à les dénigrer, les insulter, les rabaisser, faire des allusions à leur égard et émettre des soupçons les concernant. Par exemple, si quelqu'un dit « Tel shir ne comprend rien, comment a-t-il pu faire les éloges de celui-ci alors que c'est un égaré ?» Ou « Ce shir ne comprend rien, il n'est pas qualifié pour émettre des critiques ou des éloges. » Effectivement, cela est une diffamation flagrante du savant, un manque de respect évident et une insulte manifeste à son égard. Alors que celui qui agit de la sorte avec certaines personnes et ne le fait pas avec d'autres, doit examiner sa religiosité et son intention en vue de se repentir. Il est donc totalement superflu de chercher à nous intimider en invoquant cette règle plus erronée qu'inconsistante. Il est complètement absurde de tenter de nous déstabiliser en soulignant avec insistance le nom de certains savants. Al-Shaykh al-Allama. Pour conclure, nous avons vu dans cette intervention qu'il y avait deux extrêmes dans le positionnement vis-à-vis du suivi des savants, à savoir le mépris des gens de science ou le fanatisme à leur égard. Nous avons aussi démontré que tomber dans un de ces deux extrêmes menait à des comportements déplorables, pouvant aller jusqu'à manger la chair des héritiers des prophètes qui sont garants de la science ici-bas, exclure autrui du manhaj salafi ou encore l'excommunier complètement de la religion. Aussi, la bonne application dans le suivi des savants réside dans le juste milieu des gens de la sunna et du consensus, des salafis. Ce juste milieu se caractérise par l'attachement aux arguments religieux du Coran et de la Sunna authentique et du consensus, ainsi qu'aux preuves concrètes avancées par ces savants, plutôt que de s'attacher à leur personne ou leur statut. Enfin, je me rappelle ainsi qu'à tous, toutes les personnes qui entendront cette intervention, la crainte de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala envers tous les savants salafis. De même que je nous enjoins de nous enraciner dans la science et de nous imprégner des paroles et des attitudes des grands érudits. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et la rectitude, de guider nos pas vers tout ce qui mène à son agrément, d'accepter de nous ses modestes œuvres et de les compter comme une science bénéfique perdurant après notre mort, et de nous pardonner nos erreurs et nos manquements. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.